Bienvenue dans le Movers and Checkers Show d'Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Dans ce talk show, je partage ma conversation avec une personnalité engagée pour une mode plus durable, éthique et responsable. L'objectif, comprendre les enjeux et partager des solutions concrètes pour améliorer les pratiques au sein de notre industrie. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Marie Nguyen de We Dress Fair. Salut Marie.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Ça va très bien.
Pour commencer, je vais te demander de te présenter. Voilà, est-ce que tu peux te présenter? Et ensuite, ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à la fondation de We Dress Fair? Et on va diguer un petit peu dans votre projet.
Ok, trop
c'est
bien.
Parti.
Eh ben, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'est trop cool. J'aime toujours pouvoir présenter We Dress Fair et un petit peu ce qui se cache derrière. Du coup, moi, c'est Marie Nguyen. J'ai cofondé We Dress Fair avec Antoine en 2018, janvier 2018. Et on s'est rencontrés sur un parcours d'entrepreneur qui s'appelle Ticket for Change, sur lequel Antoine portait le projet de We Dress Fair et moi, je portais un autre projet. Je pense qu'on va y revenir dessus, mais sur de la revalorisation textile pour éviter les déchets en France. Voilà.
D'accord. Très bien.
Tu veux que je revienne un peu sur mon parcours?
Ouais, exactement. Moi, j'aime bien comprendre vraiment la trajectoire des gens, quoi. Où est-ce que t'es né? Où est-ce que t'as grandi? Qu'est-ce que t'as étudié? Qu'est-ce qui t'a amené à Ticket for Change, etc., quoi.
Ok. J'ai un parcours plutôt atypique. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, donc je le répète. À la base, je suis plutôt une scientifique. Enfin, je suis toujours même une scientifique. J'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait une école d'ingénieur, puis ça m'a pas plu, donc j'ai recommencé les classes préparatoires. Je voulais intégrer Normal Sup à Paris pour faire de la recherche en biologie et notamment tout ce qui est biologie médecine qui me plaisait énormément. Et du coup, ce concours-là, après 2 ans de prépa, je l'ai raté. Et du coup, je suis arrivée à la fac. J'ai découvert la fac après, vers 20 ans. Et en fait, je m'en faisais une idée, je pense, beaucoup, puisque chez moi, il y a beaucoup d'ingénieurs, médecins, etc. Et du coup, avec une image de la fac pas forcément très positive tout le temps. Et en fait, je m'en faisais une idée, je pense, assez négative, et je me suis éclatée en fait à la fac parce que on a le droit de choisir ses cours, on a le droit de choisir ce qui nous intéresse, bien que ça soit encore assez cloisonné par rapport à d'autres pays. J'ai pu faire des cours qui m'intéressaient réellement et pas attendre encore 3 ans pour faire ce qui m'intéresse. C'est un petit peu ce qu'on se dit en école d'ingénieur. Dans 3 ans, encore 3 ans, et puis je ferai ce qui m'intéresse. Encore 2 ans, puis je ferai ce qui m'intéresse. Voilà. Moi, j'ai jamais eu cette démarche-là. J'ai toujours voulu pouvoir faire ce qui m'intéressait tout de suite. En fait, j'ai jamais vraiment compris en fait pourquoi il fallait qu'on attende et qu'on fasse des choses qu'on n'aime pas pour ensuite faire des choses qu'on aime bien. Et du coup, à la fac, j'ai eu la chance d'intégrer un double cursus. Donc, j'ai fait de la biotechnologie et de la cancérologie. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'était deux mondes un petit peu différents quand même. La biotechnologie, vachement tournée sur les nanotechnologies, tout ce qui est biologie synthétique aussi, donc la résolution de problématiques. Et la cancérologie, vraiment ultra spécifique, de la recherche presque fondamentale. Donc, il y avait deux côtés qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Et j'ai eu la chance de partir aux États-Unis aussi pendant un an dans mes études et de voir aussi comment ça se faisait à l'étranger, comment on pratiquait la recherche dans d'autres pays. Et puis après mes études, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'Institut Curie à Paris et puis j'y suis restée pendant un an et demi. J'ai eu un poste de ce qu'on appelle ingénieur d'études. Donc, c'est des postes, en gros, on va aider les chercheurs dans leur recherche. Et moi, j'ai eu un poste qui m'intéressait énormément parce que du coup, j'étais sur les deux sujets que j'adorais, donc de la biotech et de la cancéro. Et voilà, et je me suis retrouvée dans ce monde de la recherche qui est un monde un peu particulier quand même. Faut le dire, hein. C'est très, très peu de... Enfin, un peu cloisonné, un monde qu'on comprend pas forcément très bien. Et même quand on est à l'intérieur, on comprend pas forcément très bien non plus comment ça marche. et où en fait, j'ai perdu ce côté très pluridisciplinaire que j'adorais. On m'a cloisonnée plutôt dans un rôle que j'avais pas forcément envie, enfin j'avais envie d'avoir, mais pas que. J'aimais bien pouvoir aussi toucher un petit peu à tout, et pour moi faire de la recherche, c'était vraiment ça, c'était être dans une démarche de résolution problématique en utilisant toutes les capacités qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai toujours aimé en fait dans le fait d'intégrer des unités de recherche. Et en fait, effectivement, on acquiert des spécificités et des expertises qui sont assez particulières. Et du coup, ce qui fait qu'on cantonne peut-être un peu trop encore les gens dans un rôle expert, sans ouvrir assez, en tout cas à mon goût, sur des capacités de personnes qui sont pas forcément formées à première vue sur ces compétences, mais qui sont des compétences sur lesquelles on a des appétences et on devrait pouvoir en fait aller aussi se développer sur ces compétences annexes. Du coup, moi, je parle notamment de... moi, j'étais biologiste, donc je faisais des choses de biologiste, donc de la culture cellulaire, voilà, enfin plein de autres choses que ça, hein. Évidemment, c'est bien plus complexe, mais... Et après, je faisais de l'analyse d'image et j'aimais beaucoup me rendre compte que l'analyse d'image et la microscopie allaient beaucoup avec la capacité à coder. Et du coup, j'ai essayé de coder un petit peu, j'ai commencé à apprendre un petit peu dans mon coin et je me suis rendu compte que j'avais une appétence pour ça qui était quand même assez grande. Et en fait, à ce moment-là, on m'a quand même un peu dit... En fait, Marie, fais attention, toi, t'es biologiste, t'es pas informaticien, quoi. Et en fait, ça m'a un peu cassée, je crois. Ça m'a même beaucoup cassée. Parce que j'étais curieuse de faire autre chose et puis j'étais curieuse que ça avance aussi plus vite, qu'on utilise des techniques plus avancées aujourd'hui pour que ces recherches, en fait, elles aillent plus vite. Et le fait qu'on me cantonne à une place que j'avais pas forcément envie d'avoir uniquement, je crois que j'ai perdu un petit peu l'intérêt que j'avais en fait dans la recherche. Et du coup, c'est à ce moment-là que je suis allée chercher en fait autre chose. Il me manquait autre chose en fait. Je pense que j'ai perdu quand même pas mal d'intérêt dans ce que je faisais à ce moment-là. Et du coup, je disais à l'époque, je disais un truc, c'est j'ai l'impression que je survis. Enfin, je suis pas complètement en accord avec ma vie. Et je m'éclate pas complètement, donc il y a une question de survivre plutôt que de vivre. Et du coup, en fait, je suis allée chercher autre chose qui me faisait vivre. Et il y avait pas mal d'autres causes qui me tenaient énormément à cœur. Et à ce moment-là, j'ai découvert une association qui s'appelle Le Carillon, qui est une association qui lutte contre l'exclusion sociale en créant des réseaux de commerçants solidaires à Paris notamment. Et en fait, j'ai intégré en tant que bénévole l'association j'ai commencé à aider les autres bénévoles à développer le réseau dans le 13e, puis après dans le 5-6 à Paris, du coup en frappant aux portes des commerçants, en leur demandant est-ce qu'ils voulaient bien rendre des services gratuitement à des personnes démunies ou des personnes qui dorment dans la rue. Et à côté de ça, en fait, très naturellement, je récupérais de la nourriture pour le distribuer autour. Donc, entre midi et deux, en fait, je récupérais les desserts des gens à Curie qui mangeaient pas leurs desserts. Je disais, donnez-moi des fruits, parce qu'en fait, les personnes à la rue, ils manquent énormément de fibres. Enfin, ils mangent un petit peu toujours la même chose. On leur donne des choses aussi qui sont faciles à manger, donc des sandwichs, etc. Mais en fait, des fruits, c'est quand même des choses qu'ils ont un peu moins souvent. Du coup, je récupérais les fruits que les personnes pouvaient, enfin, ne mangeaient pas forcément à midi, et je distribuais dans le quartier. Après, je suis allée un peu plus loin, j'ai demandé à récolter des vêtements, du coup, pour aller les distribuer, etc. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que là, je vivais. Là, je vivais. En fait, j'étais pas dans la survie. Quand je faisais ça, quand j'avais le contact des gens dans la rue, quand j'étais dans l'interaction, en fait, dans la résolution d'un impact direct, en fait, j'étais en vie. J'étais pas en survie. Et c'est comme ça qu'après, petit à petit, en fait, de fil en aiguille, j'ai intégré d'autres réseaux d'associations, notamment des recycleries dans le sud de Paris. Je me suis intéressée au relais. À ce moment-là, j'ai rencontré Anaïs aussi des récupérables. Et je commençais un petit peu à toucher le côté textile sans vraiment savoir vraiment ce qui m'intéressait dedans. C'est venu, le côté textile est vraiment venu de quelqu'un dans la rue, une femme. Je m'intéressais aussi beaucoup à la question de la femme dans la rue. Et il y a une femme dans la rue qui m'a dit « Écoute, moi tes t-shirts, tes jeans, j'en veux pas en fait, j'en ai trop, j'ai pas besoin d'en avoir autant. » Et en fait, tout le monde en donne. C'est vraiment tout, enfin, ce qu'on récupère dans les associations, c'est énormément des t-shirts et des jeans. De basse qualité en plus, du coup, qui vont rapidement s'user. Et elle m'a dit, par contre, ce qu'on me donne jamais, et quasiment jamais, c'est des sous-vêtements. Et en fait, la raison pour laquelle on ne donne pas des sous-vêtements, c'est que ben on récupère pas en fait des sous-vêtements qui ont déjà été utilisés.
Utilisés, ouais.
Ouais, c'est un
pour les mesures d'hygiène, et puis c'est trop perso, ouais.
Et puis c'est très personnel, ouais. Et du coup, ce qu'on fait plutôt, c'est que on achète, donc soit on demande à des gens d'acheter des sous-vêtements pour des personnes démunies, soit en fait l'association ou les associations les achètent après des collectes, etc. Et du coup, moi, j'avais tous ces t-shirts et puis je me suis rendu compte que bah, le jersey des t-shirts, c'était le jersey des culottes qu'on avait chez H&M, tu vois, le truc un peu... Tu vois, j'ai commencé comme ça en me disant « mais il y a un truc à faire là ». Et j'avais 25 ans, je savais que j'allais pas continuer dans la recherche. Et j'ai commencé à transformer des t-shirts en culottes pour les distribuer à des personnes dans la rue. Donc c'est comme ça, tu vois, que j'ai commencé à toucher un petit peu la question du textile. Et après, bah, du coup, en fait, avec tous ces tissus que j'avais récupérés, j'avais demandé à des potes de me donner les vêtements qu'ils voulaient donner. Je les ai découpés, j'en faisais des coupons de tissus, on se les échangeait dans des groupes Facebook. Vas-y, donne-moi ton tissu, ton coupon, j'en ai besoin pour ça. Moi, je te donne mon coupon parce que t'en as besoin pour ça. Enfin, on faisait un petit peu du troc de coupons. Et après, j'ai fait les marchés aux grands voisins. Donc, je sais pas si tu connais les grands voisins à Paris, dans le 11e. Je sais pas si ça existe toujours. C'est pas dans le 11e d'ailleurs, c'est dans le 13e. C'est un lieu. En fait, c'est une ancienne maternité. Alors, si quelqu'un des grands voisins m'écoute, je suis désolée si j'explique mal ce que c'est, mais c'est une ancienne maternité qui a été désaffectée, quoi. En gros, on pouvait plus l'utiliser, je crois, pour des questions de normes de sécurité. Parce que les hôpitaux font des sécurités supérieures, etc. Et du coup, en fait, c'est en plein cœur de Paris, vraiment. C'est à côté de Denfert. Et en fait, ils ont proposé à des associations, donc à une association qui s'appelle... j'ai perdu son nom. Bref, c'est pas grave. Une association de récupérer le bâtiment pour faire des logements d'urgence. Et cette association, elle a commencé à développer des logements d'urgence dans les grands voisins. Et après, elle s'est dit, mais en fait, on a énormément d'autres places, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, ils en ont fait des ateliers pour des petits artisans. Puis après, ils en ont fait, en fait, des lieux d'expérimentation pour de la végétalisation urbaine. Enfin, il y a eu énormément comme ça de projets super, vraiment alternatifs et vraiment super pour le coup, qui sont mis en place chez les grands voisins. Et notamment, bah, certains dimanches, il y avait un marché des créateurs. Et du coup, j'ai commencé à vendre mes petits coupons de tissu sur les marchés de créateurs le dimanche, alors que la semaine, j'allais faire de la recherche. Et je me suis rendu compte que ceux qui avaient besoin de tissu, en fait, c'était pas les gens lambda qui venaient en fait sur le marché, mais c'était plutôt les personnes qui étaient à côté de moi, en fait, qui étaient des artisans, des petits artisans, des petits créateurs, qui eux, en fait, avaient besoin de matières premières sans forcément avoir besoin de neuf. Et tu vois, là, c'est le petit commencement du la petite fibre entrepreneuriale. Je sens le projet, tu vois, qui commence à se monter. Le créneau, ouais. Et du coup, bah, je récupérais ces coupons de tissu de petits créateurs. Je commençais à essayer d'aller sur les chutes d'industrie. Des petits coupons aussi de mercerie quand ils ont des coupons et qu'ils peuvent pas les revendre parce que du coup c'est des métrages qui sont trop petits, qui sont plus normés quoi en gros. Et du coup je voulais créer une espèce de plateforme de partage de tissus entre particuliers à partir de chutes de chutes de production ou de découpe de vêtements même. Tu vois, j'allais un petit peu plus loin parce que il y avait toute cette malle de vêtements qu'on n'utilisait pas aujourd'hui et que plus personne ne voulait parce que ben pas la mode, pas la bonne coupe, pas les bons imprimés, etc. Et c'est via ce petit projet là qui s'appelait Still Useful que j'ai intégré du coup le parcours entrepreneur Ticket for Change et que j'ai rencontré Antoine sur ce parcours. Désolée pour mon monologue,
Non mais c'est ça, mais écoute, quand on raconte son histoire c'est comme ça. D'accord, et donc raconte-nous cette rencontre alors, parce que qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que l'alchimie et la chimie, la biologie a fonctionné à ce moment-là pour... raconte-nous qu'est-ce que c'était à l'époque, le projet, ouais, quand il l'a présenté à Ticket for Change, qu'est-ce que c'est devenu, etc. quoi.
Bah alors Antoine, lui en fait, c'était rigolo parce que quand on s'est rencontrés, donc on se battait pour les mêmes problématiques. Chez Ticket for Change, on dit beaucoup faut tomber amoureux de son problème et pas de sa solution. Et du coup, nous, notre problème était exactement le même. On se disait l'industrie textile marche sur la tête. Enfin, en gros, il y a un problème. Il y a un problème de pollution, d'exploitation des hommes, de surconsommation, de surproduction, etc. Donc le problème, on l'avait identifié tous les deux. Par contre, on a pris deux solutions qui prenaient le problème d'un côté et de l'autre. Moi je prenais le problème à la fin, donc le problème du gaspillage des vêtements qu'on a aujourd'hui qui sont inutilisés, il y a que 1% des textiles qui sont recyclés pour des nouveaux textiles. Enfin on met en vente,
on est très très loin.
On est très très loin, ouais. On met en vente 100 milliards de vêtements par an et on en recycle même pas 1%, enfin on marche sur la tête quoi. Et Antoine prenait le projet dans l'autre sens en disant mais en fait si on résout la cause première, qui est du coup bah, la surconsommation et la production de vêtements non durables, en fait, on va résoudre la conséquence. Et du coup, lui s'est attaqué à la cause. Et après, en fait, il s'est dit, il y a aussi une question de temporalité. Résoudre la conséquence, c'est résoudre une problématique sur du court terme. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, si on ne recycle pas les textiles aujourd'hui, il va vraiment y avoir un problème, enfin il y a déjà un problème où est-ce qu'on met cette matière, comment elle est enfouie, comment elle est transformée, elle l'est pas d'ailleurs, enfin voilà. Donc aujourd'hui on est en train d'avoir toutes ces problématiques là et Antoine lui,
mais d'ailleurs ouais, pardon je te coupe, non, mais non. Et je vais te couper plein de fois maintenant à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait d'ailleurs, parce que c'est une question que tu soulèves, mais c'est 100 milliards de vêtements qui sont produits, donc tu dis qu'il n'y en a que 1% qui sont recyclés, les autres ne sont peut-être jamais portés, il y en a qui sont un peu portés, ils sont donnés, on sait que beaucoup sont jetés, parce qu'on fait de la mode prête à jeter aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui réfléchit sur ces sujets de qu'est-ce qu'on en fait?
Ouais.
Est-ce qu'on y réfléchit même?
Il y avait à ce moment-là... Enfin, il y a toujours le leader du recyclage un peu et enfin de la collecte aujourd'hui, c'est enfin EcoTLC. Je sais pas si tu vois cette entreprise et qui coordonne un petit peu le recyclage avec le relais, Emmaüs, etc. Enfin les boîtes de collecte. Et du coup, j'étais allée rencontrer EcoTLC et surtout en fait avant de les rencontrer, j'avais un petit peu en tant que tu vois scientifique, t'as quand même des réflexes très scientifiques. C'est, j'ai regardé les chiffres. Et j'ai regardé les chiffres et on disait qu'on revalorisait, enfin EcoTLC énonce qu'on revalorise énormément des vêtements. Je ne sais plus la part. Et enfin, où c'était quasiment 100% des vêtements qui sont collectés sont revalorisés. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, revaloriser en quoi, comment, où, enfin voilà. Et du coup, j'ai un petit peu essayé de détailler les chiffres. En fait, je me suis rendu compte aussi surtout qu'on disait revaloriser parce que ce n'était pas détruit sur le territoire français. Ce qui n'était pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, donc, on collecte On collecte, je ne sais plus combien c'est 200 000 tonnes, je crois, quelque chose comme ça, de vêtements par an. Et en fait, il n'y a que 13% qui restent sur le territoire. Donc, ça a peut-être évolué les chiffres entre-temps, mais à ce moment-là, c'était ça. Donc, il y avait 13% qui restaient sur le territoire, en fait, et du coup, plus de 70%, plus de 75% même, partaient à l'étranger. Donc, on dit revaloriser, mais en fait, on vend des ballots de vêtements qui ne sont pas détruits en France, on les vend à l'étranger. Et du coup, je suis allée creuser un peu plus loin. Je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'à l'étranger... Enfin, c'est super, en fait. C'est hyper solidaire. On donne des vêtements à des personnes qui ne peuvent pas s'en acheter. Enfin, tu vois, t'as un petit peu tu penses comme ça, quoi, à ce moment-là. Et en fait, derrière, je suis tombée sur énormément d'articles où, en fait, ces vêtements, si nous, on n'en fait rien, en fait, ben là-bas, ils n'en font rien non plus. Et souvent, la plupart du temps, en fait, ça arrive sur des marchés de fripes. Et ça a complètement détruit, notamment en Afrique, l'industrie textile qui était assez forte dans les pays africains. Donc en fait, en plus, on les donne même pas les vêtements en fait. Tu vois, à la base, je croyais qu'on les donnait. En fait, on les vend. Donc on vend nos déchets à des pays qui en ont pas besoin. Et en plus de ça, à cause de ça, on détruit leur industrie qui était une industrie forte aujourd'hui, qui faisait vivre des gens. Et on a détruit, du coup, on a déconstruit à cause des déchets qu'on ne voulait pas garder et qu'on ne voulait pas, en fait, assumer la charge. Et bien, du coup, on a détruit des industries fortes dans ces pays-là. Et du coup, c'est un petit peu ce lien-là où je me suis dit, mais en fait, tous ces déchets, il faut qu'on les garde chez nous. C'est notre problème, en fait. La surconsommation, c'est notre problème. Ce n'est pas le problème de ces pays-là. Et du coup, on ne devrait pas devoir à envoyer nos déchets à l'autre bout du monde. En détruisant, en plus, en appauvrissant encore plus les personnes qui sont déjà dans des pays qui sont en voie de développement, quoi. Et du coup, je crois pas que cette part, elle ait énormément changé encore aujourd'hui. Bien qu'il y a un énorme essor de la seconde main, ça reste de la seconde main de qualité, entre guillemets. Aujourd'hui, les friperies qu'on voit, qui sont les friperies hyper hype, entre guillemets, c'est des friperies où c'est des vêtements qui durent assez longtemps, enfin... de qualité, je sais pas si tu vois un peu ce que
carrément, la friperie, c'est vrai que c'est quand même souvent des vêtements qui sortent des années 80, 90, même 2000, mais qui s'ils sont encore là, ils sont plutôt, c'est parce qu'ils étaient plutôt quali au départ, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que la fast fashion d'aujourd'hui, une fois que tu l'as lavé 3, 4, 5 fois en machine à laver, ça ressemble plus à grand chose et c'est compliqué de l'acheter parce que ça ressemble plus à grand chose, quoi.
Ouais,
c'est
un peu ça le raisonnement. Il y a ça, et puis il y a le côté assez. En fait, on les retrouve où aujourd'hui ? Même les vêtements de qualité, enfin, non, pas de qualité. Les vêtements non troués, enfin non usés de la fast fashion, on les retrouve où ? En fait, il y a un peu de dépouvante, tu vois, des choses où là, c'est des énormes caisses, il faut fouiller, etc. Mais en fait, c'est quand même pas la majorité, quoi. Et du coup, ce qui fait que... Enfin, en tout cas, c'est pas dans ce genre de friperie, aujourd'hui, que y a énormément de publicité, quoi. Du coup, ce qui fait que ces vêtements, à un moment, il faut bien qu'ils finissent quelque part. Et malheureusement, la plupart du temps, ils finissent dans des décharges à ciel ouvert, mais à l'autre bout du monde, pour pas qu'on voit chez nous ce qui se passe en fait réellement derrière.
Et donc, ça, c'était donc ma question sur les 100 000 tonnes les 100 000 vêtements produits chaque année. Mais alors, milliards, ouais, c'est fou. Mais alors, vous, donc, avec WeDressFair, et en tout cas, Antoine, à l'époque, il voulait s'attaquer à la source.
Ouais.
Et comment il s'attaquait à la source alors ?
Eh bien, du coup, c'était sur. En étant plus sur une question de consommation raisonnée. En fait, le problème de. On met en vente 100 milliards de vêtements, il est un peu double. Il y a d'un côté les entreprises qui poussent à la consommation et d'un côté les consommateurs qui surconsomment. Donc il y a eu tout ce mythe autour de la société de consommation, plaisir, la consommation, enfin la consommation qui fait plaisir, la consommation activité du samedi. Enfin tu vois, il y a tout ce truc là un petit peu autour. Et puis il y a les entreprises. Aujourd'hui, les publicités des grands groupes de fast fashion, on dirait que c'est des publicités de marques de luxe. Donc, le luxe devient un petit peu accessible à tout le monde et du coup, il pousse énormément à cette consommation massive. Du coup, Antoine, il partait plus du principe qu'en fait, pour résoudre le problème, faut résoudre la surproduction et la surconsommation. Et vraiment, c'est au cœur, en fait, des problématiques qu'on essaye de résoudre chez We Dress Fair. Donc, en gros, on essaye vraiment de choisir des vêtements de qualité. Donc, on parle énormément de la qualité et de la durabilité des vêtements. Et on est aussi sur toute une partie de sensibilisation, de pédagogie, en fait, de compréhension de notre consommation dans la mode, comment on fait durer ses vêtements, comment on choisit ses vêtements, est-ce qu'à ce moment-là, j'en ai vraiment besoin, quelles sont les matières à privilégier pour le besoin que j'en ai aujourd'hui. Voilà, on essaye vraiment, du coup, avec ces, de jouer, en fait, sur ces deux tableaux, mettre en avant des marques qui produisent durablement et à faible quantité. Donc, on n'est pas sur des... Enfin, faible quantité, c'est-à-dire, on n'est pas sur du nombre de collections infinies. Je crois que les grands groupes de la fast fashion, c'est plus de 40 collections par an. Nous, on a... Le maximum, c'est 4, tu vois. Donc, on essaye vraiment, du coup, de réduire au maximum et de choisir des vêtements et des marques qui sont dans cette quête de durabilité.
Et qu'est-ce qui fait un vêtement durable ?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Il y a plusieurs choses, je pense. La première chose, c'est la qualité de la matière première à la base. Et ce qu'on en a fait. Donc, typiquement, je prends l'exemple d'un t-shirt aujourd'hui. Les t-shirts de la fast fashion sont des t-shirts extrêmement légers. Les grammages sont tout petits. Au doigt, on peut le sentir, en fait. C'est hyper fin. Alors, c'est...
Ça fait combien de grammes, en général ?
J'ai plus les chiffres exacts dans la fast fashion. Je saurais pas te dire, tu vois. Parce que...
Mais c'est un truc genre 50, 70 grammes par mètre carré, c'est ça, non ?
C'est beaucoup moins. Je crois que c'est
30, même moins que ça.
Tu vois, ouais.
Ah ouais.
Tu vois, c'est vraiment hyper fin.
Ouais, donc, ça va vraiment sur des trois tours de machine à laver, ça le défonce. Ouais.
Et encore une fois, je m'excuse auprès s'il y a des ingés textiles qui ont les chiffres exacts, je ne les ai pas. Et en gros, mais rien que si tu touches en fait ces tissus-là, tu te rends compte que c'est pas quelque chose qui va être durable dans le temps. Alors si c'est pour une utilisation très spécifique, typiquement en sous. Tu sais, pour porter en dessous d'un vêtement quand il fait froid ou etc. Effectivement, ça a son utilité. Après, la deuxième chose que j'avais à dire, c'était le lavage. En fait, aujourd'hui, il y a aussi un mythe de la surconsommation de lavage, en fait. On lave beaucoup trop nos vêtements. Si on prend l'exemple d'un jean, aujourd'hui, les jeans, on lave nos jeans quasiment après deux ou trois fois où on le porte. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de laver des jeans autant. Des vêtements en laine, pourquoi on lave la laine ? À la base, la laine, on n'est même pas obligé en fait, de la laver. Ça se lave pas. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, c'est si dur aussi de laver de la laine. J'ai tendance à dire ça aussi. Si c'est si dur de le laver, pourquoi le laver du coup ? Et en fait, ces choses qui sont un peu ancrées d'hygiène, etc. Faut un peu les déconstruire. Donc, essayer de déconstruire les schémas de pensée qu'on a à ce moment-là. Dire c'est sale. Enfin, aérer un pull en laine, c'est pas sale. Voilà. Il y a un mythe aussi à côté du côté bactériologique, etc. Enfin, du coup, faut essayer. Il y en a qui mettent du coup pour le côté un petit peu microbien. Enfin, qui mettent les jeans dans leur frigo. Bon, après, ça, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, mais voilà, c'est un petit peu les choses qui se font aussi de façon un peu plus alternative pour laver moins ses vêtements. Et quand on lave moins, et ben on use aussi
moins. On use moins.
Ouais.
Bien sûr.
Et
juste pour revenir sur la solidité des vêtements, qu'est-ce que vous faites, vous, chez We Dress Fair pour vous assurer que les vêtements que vous vendez sont vraiment solides ? Parce que. Alors, avec l'expérience que j'ai avec chez Réunis, avec ma propre marque, on se rend compte que... Parce que c'est un peu notre credo aussi, hein, moins mais mieux, faire des produits qui durent vraiment longtemps, qui sont vraiment solides.
Ouais.
Et dans le choix des matières premières, ben, on commande plein de matières différentes et puis on les passe 10 cycles en machine à laver, 10 cycles au sèche-linge.
Ouais.
Et on voit la gueule que ça a à la sortie. Et on se rend compte que quand même, y a pas beaucoup de matière hein, qui résiste à ça, quoi. Et donc les choix sont vraiment difficiles, en fait. C'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait, nous, là où on galère le plus, c'est ça, c'est trouver les bonnes matières, quoi. Après, le design, etc., c'est presque moins difficile si tu t'entoures des bonnes personnes. Ouais. Mais le trouver les bonnes matières, c'est franchement, c'est la croix et la bannière.
C'est un métier, le sourcing. c'est vraiment un métier à part entière. Et honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ceux qui prennent énormément de temps à le faire. Et la plupart des marques de mode éthique, c'est ce qui leur prend vraiment le maximum de temps.
Le plus.
Alors comment nous on fait? Il y a plusieurs choses. Donc à la base, on a appris aussi beaucoup sur le tas. Donc il y a des choses qu'on reconnaît maintenant. Typiquement l'épaisseur d'un coton, tu vois, j'ai pas les grammages en tête aussi parce que on les touche en fait, et du coup maintenant après quelques années d'expérience, on commence à savoir lequel est plus durable qu'un autre. Il y a des matières qui sont plus durables aussi. Le lin aujourd'hui, c'est des matières qui quand même durent assez longtemps. Du 100% lin, c'est des choses qui vont durer quand même assez longtemps dans le temps. Quand il y a de l'élastane, des parts d'élastane trop importantes dans les jeans par exemple, nous on prend pas. Du coup on commence à avoir, donc en fonction des catégories de produits, on commence à avoir un œil assez expert pour savoir si c'est des vêtements qui vont durer dans le temps. Après on n'aura pas tout parce que il manque aujourd'hui quelque chose, et c'est ce qu'on essaye vraiment de pousser, on en parle assez souvent. Il manque un indice de durabilité. Il manque aujourd'hui en fait ce côté un petit peu obligatoire pour chaque vêtement, pour les mettre sur le marché, d'avoir un indice de durabilité. Donc ce qu'on essaye de faire nous, c'est de faire des enquêtes post-consommation. Donc après en fait on met en vente les vêtements, et après plusieurs mois en fait d'expérience sur un nouveau vêtement, on fait des enquêtes de satisfaction client en leur demandant, vous, est-ce que vous êtes content de la durabilité de votre produit? Quand ça revient trop souvent, non, ça nous arrive très peu, mais quand ça arrive trop souvent, non, on va appeler la marque, on va lui proposer du coup en lui disant, ce t-shirt, il n'a pas tenu, est-ce que tu sais pourquoi, etc. Et du coup, pour que derrière, il puisse aussi être dans une démarche d'amélioration. Et la deuxième chose, c'est ce côté d'indice de durabilité. Vraiment, on essaye de pousser à ce que ce soit quelque chose qui soit un peu universel, et que les marques arrivent à faire de façon simple et peu coûteuse. Et ça, c'est encore des trucs, tu vois, en projet.
Et quand t'es une marque, qu'est-ce que tu leur conseilles, toi, quand tu parles aux marques et quand tu parles à tes... à tes fournisseurs, enfin à tes marques, les marques que vous distribuez, vous leur dites quoi pour travailler sur ce sujet-là? Profites-en, parce que là, on a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent.
En fait, nous, on va plutôt donner, tu vois, ce que les clients nous disent. Typiquement, il y a des... dans les matières qui sont upcyclées, il y a certaines fois des problèmes parce que l'upcycling, c'est quand même un peu plus compliqué aussi, parce que c'est des tissus que tu récupères, t'as pas forcément le background du tissu en entier, tu sais pas forcément si son utilisation en vêtements va satisfaire le client dans sa globalité, quoi, et dans son utilisation commune. On fait des retours aux marques sur les remarques des clients. Donc en leur disant, ce tissu, il a décoloré trop rapidement. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que du coup tu le récupères encore? Est-ce que du coup tu peux essayer de changer cette matière par une autre matière? Est-ce que attention à la teinture du coup de ces matières que tu récupères? Enfin, tu vois, en disant attention à la source que tu récupères, peut-être qu'elle est pas si bonne que ça. Les choses en 100% coton sur des pantalons pour femmes, c'est difficile. Les pantalons pour femmes qui ont quand même aujourd'hui encore un petit peu d'élastane, et on voit des projets qui se montent sur plutôt remplacer l'élastane par du tencel pour avoir ce côté un peu plus élastique. Du 100% coton, passer sur des trucs upcyclés, faire des pantalons qui sont pas larges mais qui sont un peu serrés. Pour de la femme, c'est difficile. On essaye aussi de dire ça aux marques qui en font, en leur disant attention, c'est des vêtements qui sont très très beaux, mais qui du coup sont peu portés. Si c'est peu porté, ça finit dans le placard, et du coup, ça manque. Enfin, il y a plus côté utilisation. Tu vois, c'est plutôt des recommandations, mais assez spécifiques quand on a des remarques qui reviennent assez souvent.
Ouais. Et le, dans le choix des matières, tu as l'air très pointu là-dessus. C'est quoi les go et les no-go? Est-ce que vous avez décidé de bannir certaines compositions de tissus?
Ouais. En fait, on a fait, dès le début, on a préétabli une charte de matières qu'on considérait éco-responsables. À chaque fois, ça a été... et c'est une charte qui évolue avec les capacités technologiques, en fait, avec l'évolution technologique dans le textile. Et du coup, il y a des choses qu'on bannit. Le coton classique, on bannit complètement. C'est... Il y a zéro produit qui contiennent du coton classique sur WeDressFair. Et on a une charte assez...
conventionnelle.
Il y a certains produits comme ça qui sont... Enfin, matières qui sont bannies. Et après, en fait, on autorise un produit à être présent sur WeDressFair que s'il y a plus de 90% de sa matière totale en matière éco-responsable. Et du coup, en considérant une matière éco-responsable faisant partie de la liste qu'on a définie.
D'accord. Tu peux nous en citer quelques-unes? Ouais.
Le coton biologique, ça reste une matière éco-responsable pour nous. Ouais. Le lin, le
certifié GOTS, BCI.
Comment?
Certifié GOTS, BCI, c'est jusqu'où vous
allez? GOTS, certifié GOTS.
Ouais. Ok.
Après, il y a parce que le coton BCI, on le considère pas comme du coton bio, nous. Donc pour nous, ça passe pas.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est vrai que c'est une certification qui a très mauvaise presse, mais pourquoi ?
Alors c'est un peu technique parce que c'est pas complètement du coton biologique. Donc c'est une avancée sur des certifications, mais c'est pas complètement du coton bio. Donc derrière, il y a quand même autorisation. Dans les minima du BCI, je crois qu'il y a encore l'autorisation de pesticides, d'insecticides et de présence d'OGM. Donc, tu vois, on est encore sur... voilà.
C'est bien conventionnel, leur truc, quoi.
Ouais, nous, on le définit pas comme un coton... En fait, je crois que bio, c'est plutôt un coton de conversion, tu vois, qui est en train d'être mis en champ biologique, mais qui est quand même pas considéré bio, quoi. Enfin, en tout cas, pour
d'accord,
nous, ça passe pas les contrôles. du coup, d'autres matières, on considère le tencel, le chanvre, le lin, ce qui est matière recyclée, donc coton recyclé, laine recyclée, polyester recyclé. Ouais. Tencel, toutes les matières artificielles à base de naturel, donc tencel, lensing, écovero,
lyocell.
Lyocell, tencel lyocell, c'est le même la même matière. Enfin voilà, tous les il y a refibra, après tous les nylons recyclés, tu vois, pour les collants, des choses comme ça. Enfin, tout est recyclé. Alors après, tout ce qui est synthétique, on propose tout le temps de laver dans des sacs de lavage qu'on appelle les Guppy Friend, qui sont des sacs de lavage qui permettent en fait de limiter la diffusion des microparticules. Parce que à chaque fois qu'on lave un vêtement synthétique, il relargue des petites parties de plastique dans les eaux du lavage, qui ne sont pas forcément tout le temps filtrées par les centrales d'épuration. Donc, si on peut le filtrer soi-même, c'est quand même mieux.
Une question très naïve là-dessus, c'est sur le. Une fois que ton Guppy Bag il a récupéré les microplastiques, qu'est-ce qu'on en fait ?
On les récupère, on les jette.
C'est à la poubelle.
Ouais.
Et c'est incinéré.
Ouais. Donc, d'accord. Ça reste une part infime. C'est ce qu'on appelle le moindre risque. Enfin, c'est la solution la moins pire, tu sais.
La moins pire. C'est pas la démocratie.
Mais un autre débat. Ça, c'est un autre débat.
Ouais, exactement. Très bien. Et sur toute la dimension pédagogie, parce que c'était vraiment votre combat, vous, hein, c'était faire des vêtements qui durent longtemps. Et en même temps, faire de la pédagogie sur le lavage et sur les prises de conscience. Ouais. Quelles sont les best practices que vous avez appris au fur et à mesure que vous avez avancé le projet? Ce qu'on reproche souvent aux marques responsables, ou en tout cas aux initiatives responsables, comme la vôtre peut-être qu'on vous le reproche, c'est souvent de tomber dans le, on donne des leçons, quoi. Souvent, les marques de mode responsables, on dit que c'est des donneurs de leçons, c'est un, ils sont un peu trop militants, alors que la mode, elle est là aussi pour faire rêver, etc. C'est comment tu trouves le juste milieu de d'un côté, la mode, ça reste ludique, et de l'autre côté, cette prise de conscience.
C'est un peu entre les deux, la mode, quand même. C'est un peu particulier. C'est, ça reste ludique, certes, mais en même temps, c'est, enfin, il y a un côté qui reste ludique, mais en même temps, c'est hyper pratique. Enfin, je veux dire, sinon, dans ce cas-là, il y a des gens qui vivraient nus dans la rue. Donc, il y a quand même un côté utilité et fonctionnalité quotidienne.
Fonctionnalité,
oui. Nous, comment on fait ? En fait, sur la partie pédagogie, déjà, il y a plein de choses qu'on a appris, nous. Et on s'est dit, il y a un problème, c'est que si ces informations, elles ne sont pas facilement accessibles, en fait, le consommateur final, il ne choisit jamais. Puisque du coup, s'il ne connaît pas ces informations, en fait, il subit le choix de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas lui qui va choisir réellement, du coup, les conditions de fabrication, etc. Donc nous, déjà, on est parti sur un truc qui était notre premier cheval de bataille. Ça a été de rendre le maximum d'informations possibles, disponibles, et facilement disponibles sur le site, que ce soit sur... donc, on a vraiment décortiqué toutes les matières. Si vous allez sur le site de WeDressFair, on a une page, on a 45 matières, on les a vraiment décortiquées une par une, on explique vraiment ce que c'est, pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est moins bien, etc. Avec un panel assez large en parlant de tout type de matières aujourd'hui qui existent. Du coup, on essaye de donner de l'information, déjà, pour qu'on puisse facilement, quand on en a envie, accéder à l'information. La deuxième chose, c'est que nous, on essaye de ne pas être dans le côté « je te force à t'informer ». Je m'explique, on essaye d'être plutôt dans un côté... Tu vois les campagnes de prévention routière ? Ouais. Si tu vois un peu, tu sais, c'est des affiches, des trucs un peu choc. Bon, c'est vraiment très choc. Mais qui ne sont pas là en train de te dire tous les jours... attention, tu conduis mal ou tu... Enfin, ils sont quand même un peu moralisateurs. Je suis en train de me rendre compte s'ils sont quand même un peu moralisateurs. Mais en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de rentrer dans la conversation de, enfin, sur la mode éthique dans une sphère publique où t'as pas forcément l'habitude de le voir, quoi. Nous, par exemple, on fait des campagnes d'affichage avec où on détourne des affiches de fast fashion et en montrant ce qui se passe vraiment derrière. Donc, on avait fait l'année dernière des campagnes d'affichage à Lyon, dans le premier, et on avait écrit sweat avec une nana avec un sweat jaune, je crois, enfin hyper brandé fast fashion. Et on avait mis sweat 0,99 centimes et on avait mis une petite étoile. Et la petite étoile en bas, on avait écrit « Pour payer moins cher qu'une baguette de pain, les ouvriers du textile ». Et en fait, ça, c'est des choses qui, sans expliquer rien d'autre, en mettant juste « WeDressFair » en bas, si jamais tu as envie de voir de l'information, viens sur le site, tu verras. Et en gros, ça, c'est pour permettre en fait de sortir le sujet ailleurs que là où on a l'habitude de le voir. Avoir peut-être, tu vois, de temps en temps le déclic. C'est-à-dire, quand vraiment, il y a plusieurs portes d'entrée pour avoir ce déclic, et quand tu l'entends plusieurs fois, au bout d'un moment, tu t'y intéresses et peut-être tu vas chercher l'information. On n'est pas à essayer d'aller chercher les gens, tu vois, aller les chercher, les ramener et leur dire « Viens, écoute ce que j'ai à te dire ». On essaye du coup de ne pas être dans ce rôle-là. Parce que justement, pour nous, c'est ce rôle-là qui est un rôle un peu moralisateur. Après, c'est vraiment pas facile tous les jours. Honnêtement, y a des moments où on a très, très, très envie de dire plus, d'en faire encore un peu plus. Mais en fait, chacun... à son rythme aussi de changement. Même si on sait qu'il faut que ça change vite, on ne peut pas forcer les gens à s'intéresser à ce sujet-là à ce moment-là. Par contre, plus on met de points de contact d'information au consommateur, plus il aura facilement la possibilité de s'informer et vite quand le moment sera venu.
Alors aujourd'hui, même si on sent que la fast fashion elle est un petit peu en perte de vitesse, Enfin, d'ailleurs, je sais même pas. Je dis ça parce que Zara ferme 1400 boutiques, donc ça donne le sentiment que c'est la fin des haricots. Mais bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent chez Zara et chez H&M. Pourquoi tant de gens achètent encore de la fast fashion alors même qu'on sait les dégâts que ça fait, quoi? Pourquoi, d'après toi?
Il y a beaucoup ce côté avant, je pense que donc la génération d'avant, il y avait ce côté manque d'information. On n'est pas sûr des sources, on n'est pas sûr vraiment de savoir si c'est bien ou pas. Enfin, tu vois, bien que je pense que si vraiment tu avais envie de t'informer, tu pouvais le trouver, quoi. Mais peut-être moins de débats. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir le côté à charge et le côté plutôt, enfin, d'avoir en fait les deux versions de l'histoire et pouvoir comparer. Je pense que c'est assez important et c'est ça aujourd'hui qui fait que on prône la transparence pour pouvoir en fait que ce soit le choix final qui arrive au consommateur et qu'on choisisse pas à sa place. Par contre, je pense qu'il y a aujourd'hui un côté désespérant, tu vois. Il y a un côté, il y a trop de choses. Parce qu'on nous parle de la mode, mais on nous parle du côté, enfin, des plastiques, et puis on nous parle du pétrole, et puis on nous parle de... Donc, tu vois, il y a un côté genre, si je fais juste un peu, en fait, ça sert à rien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de discours qui sont, mais pourquoi je trie si mon voisin, il trie pas? Ça sert à rien. Et du coup, c'est décourageant. Tu vois, tu vois pas ton impact tout de suite, tu vois pas que ça avance, t'as l'impression que t'es vraiment le tout petit David contre le gigantesque Goliath. Donc je pense qu'il y a ce côté un peu désespérant. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus globale et il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui sont... Tu vois, ça a moins un côté négatif d'être dans le mouvement, d'essayer de changer les choses, de changer sa façon de consommer. Tu vois, il y avait un côté un petit peu stigmatisant avant. Et je trouve qu'on le perd petit à petit. Donc ça, c'est bien, tu vois. C'est des sujets qui arrivent qui sont des sujets qui sont plutôt communs aujourd'hui. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer sur ces sujets-là. Et après, il y a beaucoup de clichés. Il y a énormément de clichés. Et ça, ces clichés, il faut les déconstruire. Les clichés de... le premier qui vient très facilement, c'est la mode éthique, c'est moche. C'est comme si tu me disais les tomates bio, elles sont dégueulasses. Il y a plein de trucs comme ça. Faut déconstruire tout ça. Et petit à petit, la mode éthique, elle a évolué. Ce cliché de la mode éthique, elle est moche, il était peut-être vrai il y a 50 ans. Il n'est plus vrai du tout aujourd'hui. Il y a de tout en mode éthique. Il y a plein de choses qui sont disponibles. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir montrer que non, ce cliché, il n'est plus vérifié aujourd'hui. Il y a un deuxième cliché qui est semi-vrai, qui reste quand même un peu vrai, c'est la mode éthique, c'est cher. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément encore le réflexe de beaucoup de personnes, et moi la première encore, pour plein d'achats, c'est retourner l'étiquette et regarder le prix avant de regarder l'information sur le produit. Du coup, ça, c'est quelque chose aussi qu'on essaye de déconstruire. Et plutôt que de retourner l'étiquette et de regarder le prix, tu retournes l'étiquette et tu regardes sa composition, où est-ce que c'est fabriqué, dans quelles conditions, ses labels, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui va évoluer dans le temps, mais qui peut prendre énormément de temps. Du coup, la mode éthique aujourd'hui, ça reste cher, c'est vrai, mais pas pour tout. Les basiques aujourd'hui dans la mode éthique sont quand même pas si chères que ça. C'est plus cher que si on compare à de la fast fashion, ça c'est sûr. De toute façon, si on compare n'importe quoi à de la fast fashion, ça sera plus cher. Mais par contre, derrière, il faut prendre en compte d'autres choses qui sont une durabilité plus élevée, moins d'intrants chimiques dans les textiles, le soutien aussi d'une filière qui est plus responsable à la base et du coup qui détruit pas les écosystèmes et qui détruit pas les hommes qui ont permis de faire ces vêtements. Donc il y a quand même autre chose, c'est vraiment ce côté-là. Ça me fait penser à autre chose, c'est pour ça que j'ai dérivé un petit peu, mais ça me fait penser à autre chose, c'est que Je pense qu'il y a aussi de plus en plus de consommateurs qui ont envie de savoir où est-ce que vont leur argent. Donc typiquement, c'est plus dépendant du produit, mais c'est dépendant aussi de qui est l'entreprise derrière. Pourquoi aujourd'hui, en fait, si j'ai accès à ces informations, pourquoi aujourd'hui j'irais donner de l'argent à une entreprise qui rémunère plus ses actionnaires que les personnes qui font ces produits ? Alors qu'il y a d'autres modèles d'entreprise qui se montent aujourd'hui qui sont plus du tout sur ces logiques-là, qui sont sur l'épanouissement des personnes qui travaillent, il y en a même des marques avec qui on travaille qui donnent des bénéfices, qui redonnent un pourcentage de leurs bénéfices à des associations. Donc, on finance aussi, via l'achat de certains produits, on finance des associations qui luttent contre des causes qui sont multiples et diverses, mais qui sont aujourd'hui des problématiques actuelles. Donc, ça va encore plus loin. Et je pense que ça, c'est aussi dû au côté information et transparence des entreprises. Et le consommateur, en tout cas, les consommateurs WeDressFair aujourd'hui, c'est des gens qui cherchent ça, qui cherchent non plus à consommer des produits, tu vois, mais à aussi soutenir des initiatives.
Mais tu me donnes une perche pour parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment et sur lequel je me pose beaucoup de questions. Finalement, toute notre discussion tourne autour de ça. On parle de surconsommation, de surproduction, de si on en est là aujourd'hui, c'est parce que c'est quand même, on le sait tous, c'est cette course au profit, à la croissance à outrance, pour rémunérer toujours plus d'actionnaires, etc. Une question que je me pose et que je me pose vraiment personnellement pour Réuni aussi, c'est où est-ce que tu mets la barre du succès? On a été élevé, on a grandi avec cette croyance que pour réussir, faut faire beaucoup de chiffre d'affaires, il faut croître. Le KPI le plus important, c'est la croissance, c'est le chiffre d'affaires, c'est les bénéfices. C'est le nombre d'employés que tu as, c'est la taille que tu fais. Et bigger is better dans l'ancien monde, en tout cas dans le monde qu'on nous a inculqué. Et toi, tu as dû te poser aussi ces questions-là, c'est où est-ce qu'on met... moi, le grand truc, c'est est-ce que dans un monde fini, aux ressources finies plutôt, on n'a pas intérêt à créer des entreprises à la croissance finie en tout cas? Et tout ça est discutable en fait. Et je ne sais pas si tu peux m'éclairer sur ce point-là, toi.
Je pense que déjà, il y a un premier truc, c'est que se poser la question, c'est déjà ouf. Parce que je pense qu'il y a des tonnes d'entreprises qui ne se posent pas la question. Et se poser la question, c'est quoi qui me guide aujourd'hui ? En fait, qu'est-ce qui me guide à aller toujours plus loin ? Si c'est la recherche de la croissance à outrance, pour du profit à outrance, t'as une réponse, tu vois. Déjà, tu sais que si tu grossis, c'est parce que t'as envie de faire plus de profit. Il y a autre chose, c'est la course à l'impact. Est-ce que la course à l'impact, elle a totalement aussi... Enfin, tu vois, moi aussi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines boîtes qui justifient leur croissance à outrance avec la maximisation de leur impact. Je suis pas totalement en accord avec toutes les boîtes qui disent ça, tu vois, mais il y a une question quand même.
C'est un peu l'excuse, je trouve, qui est un peu bidon. Quoi. Ouais. Je veux dire, plus on sera gros, plus on aura d'impact, moins il y aura de parts de marché de Nike et de Adidas. Quoi. Ouais. Je trouve ça un peu bullshit quand même.
Ça, c'est oui. En tout cas, si c'est pas prouvé, j'ai très peu de. C'est une information que je lis, mais que voilà, ça me passe un petit peu, ça me passe un petit peu dessus. Et toi, tu disais bigger is better. Moi, je dis happiness is better. Et je pense que il y a un truc, c'est que nous, ce qu'on essaye de faire surtout, déjà, d'un, on sait que WeDressFair, c'est une entreprise à croissance finie. D'un, parce qu'en fait, personnellement, on n'a pas envie d'avoir une boîte avec 300 personnes. Même 150 personnes, je pense qu'on n'en a pas discuté ouvertement, mais je pense que c'est pas le genre d'entreprise qu'on a envie d'avoir avec Antoine. Ce qui nous guide par contre énormément, c'est aujourd'hui, si les entreprises de mode éthique ne sont pas aussi connues si en fait les personnes qui cherchent des alternatives et qu'on demande dans la rue, est-ce que vous savez où acheter des vêtements qui ont un impact positif, enfin du moins moins impactant pour l'environnement et qui rémunèrent dignement les personnes, ben si 100% des personnes ne répondent pas à cette question, pour nous, on a failli en fait à la mission. Notre but, c'est vraiment que toute personne qui cherche à consommer de la mode puisse trouver une alternative en mode éco-responsable. Donc le jour où on interrogera toutes les personnes dans la rue, on leur demandera « Est-ce que vous savez où trouver des vêtements qui ont un impact différent sur l'environnement, qui vous donnent les informations, qui sont transparents, qui ont une traçabilité complète et qui rémunèrent bien les personnes qui sont derrière ?» et que tout le monde nous répond, là, je pense, on s'arrêtera de croître. Du coup, c'est pas défini par et encore, je pense que c'est pas nous. Et c'est ce qu'on dit tout le temps. On dit que ce n'est pas We Dress Fair qui fait que ça va changer, c'est We Dress Fair plus tous les autres qui sont en mouvement aujourd'hui. Et il y en a énormément. Et la mode éthique, ce n'est pas que du neuf éthique, c'est aussi de la seconde main, de la location, etc. D'ailleurs, on incube, entre guillemets, un petit projet de location de vêtements pour enfants à Lyon, qui s'appelle Loca Loca, qui permet de louer des vêtements pour des enfants de 0 à 6 ans à 1 euro par mois. Parce que c'est dans la démarche exactement dans le même sens que We Dress Fair. Du coup, on sait que notre but ultime, en fait, c'est de permettre à chaque personne de trouver son alternative le jour et d'avoir assez d'informations, en fait, d'accéder à toutes ces informations-là facilement. Le jour où ça sera atteint, on aura atteint, en fait, notre objectif. Donc, on n'aura pas besoin de croître plus que ça. Et je pense que tous les acteurs du secteur auront atteint leur objectif à ce moment-là. Alors effectivement, on n'y est pas, et on n'y est pas du tout aujourd'hui. C'est pour ça qu'on pousse énormément, on essaye de diffuser un petit peu les engagements de We Dress Fair pour qu'il y ait d'autres entreprises qui se montent aussi comme nous, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et notre but, ce n'est pas de le faire tout seul, on ne veut pas le faire tout seul. Et la deuxième chose, c'est de permettre à chaque personne qui travaille chez We Dress Fair de s'épanouir dans son travail. Et ça, on y tient énormément avec Antoine, parce qu'on a travaillé dans des boîtes dans lesquelles on n'était pas épanouis et qui n'ont pas su répondre quand on leur a dit « mais moi, je ne me sens pas bien ». Et je ne me sens pas bien parce que, en fait, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de ça, j'ai besoin qu'on change ça, etc. Et qui ne nous écoutaient pas forcément, en fait, sur nos propositions de changement. Du coup, ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de tous les jours de faire attention avec Antoine. Et du coup, c'est aussi corrélé à la croissance. On sait que passer certains seuils de croissance, c'est plus compliqué d'avoir un œil facile sur tous ses collaborateurs. Et enfin, un œil, c'est pas un œil malveillant, c'est de pouvoir en fait continuer à avoir
tous les jours,
une accessibilité.
Et de sentir le pouls et de comprendre. Ouais.
Exactement.
Savoir ce qu'ils ont, s'ils sont heureux ou pas. Quoi.
Exactement. Du coup,
et ça, quand tu as 10 000 salariés, c'est plus possible.
Ouais. C'est pour ça que je dis un petit peu. Happiness is better, parce que notre KPI est intéressant aussi qu'on essaye de suivre, mais sans suivre par semaine, tu vois, c'est de savoir est-ce que vous vous sentez épanoui dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on demande assez régulièrement.
C'est quoi les autres KPIs que vous regardez ?
Il y a des KPI business qui sont très basiques. Le nombre de personnes qui sont arrivées sur le site, le nombre de commandes. Donc ça, c'est vraiment côté site internet. Après, il y a d'autres côtés sensibilisation. On regarde le nombre de personnes qui ont été touchées par nos campagnes de sensibilisation. Les demandes externes aussi, c'est pas mal un chiffre qu'on essaye de suivre. Donc le nombre de marques qui ont envie de rejoindre la plateforme. Il y a pas mal d'autres choses comme ça. Le board entier, je saurais pas te le dire exactement tout de suite, tu vois, mais il y a plein de choses comme ça, ouais.
Sur le, alors les marques que vous distribuez sur We Dress Fair, c'est quand même beaucoup des NVB, mine de rien, des marques qu'on appelle habituellement, qu'on appelle aussi des marques direct to consumer, etc. Et la question que je me pose, c'est quel coefficient vous appliquez, vous, sur We Dress Fair, quand tu sais que pour beaucoup de ces marques, un des avantages concurrentiels, d'une certaine manière, c'est de dire on coupe tous les intermédiaires, on n'a pas de distributeur, on fait très peu de marketing, etc. Quel est votre, Comment vous taclez ce sujet-là?
Nous, en fait, on prend 20% des 20% du prix hors taxe, hors frais de port sur les ventes qu'on génère via la plateforme. Après, il y a d'autres choses que... En fait, rejoindre WeDressFair, c'est rejoindre aussi une communauté de marques et permettre, en fait, de rejoindre, en fait, un espèce de mouvement aussi de la mode éthique. Du coup, je pense qu'il y a le côté intéressant de la visibilité que peut donner WeDressFair à certaines marques, pas à toutes, effectivement, mais que peut donner à certaines marques. Et après, il y a le côté... on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, WeDressFair. On est en train d'essayer de demander l'agrément ESUS, qui est un agrément, en gros, de reconnaissance de l'état de l'utilité générale de l'entreprise. Et il y a le côté aussi sur lequel les marques savent aussi à qui elles donnent leur argent. Et du coup, elles savent que derrière, nous, ce qu'on en fait, c'est des campagnes de sensibilisation énormément. En gros, on dépense... aujourd'hui, notre trafic est à plus de 80% du trafic organique. Parce que, en fait, les campagnes de sensibilisation, c'est des choses qui ramènent, qui ramènent énormément d'informations sur le site, et les gens, c'est des choses qui les intéressent énormément. Du coup, notre blog est assez lu, nos réseaux sociaux aussi énormément, et on essaye de changer un peu tout ça pour que ce soit plus facilement lisible et qu'il y ait plus d'informations, encore plus d'informations. Et je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Si, parce que du coup, les entreprises, elles savent aussi que dans leur scope de distribution, travailler avec des marketplaces qui sont des marketplaces qui correspondent à leurs valeurs et qui vont jusqu'à porter en fait des statuts d'économie sociale et solidaire, ils savent que derrière, en fait, on fait aussi du travail de pédagogie pour eux. Et d'ailleurs, on essaye énormément quand ces marques-là, on peut les mettre en avant, on les met en avant aussi quand elles collent à 100% avec les valeurs de WeDressFair. Voilà.
Trop bien. En ce moment, ouais, pardon.
Je dirais même un truc en plus, c'est... Il y a même des grandes, grandes marques. Bon, je n'ai pas le droit de citer les noms encore, mais parce que on ne l'annonce pas tout de suite, mais qui viennent nous voir en nous disant « Nous, on s'enlève des distributeurs classiques. » Parce que Zalando et Amazon, ils collent pas du tout à nos valeurs, et c'est pas cohérent d'être distribué par des grandes plateformes comme ça. Et alors, on n'a pas du tout vocation à être de la taille de Amazon et de Zalando, mais pas du tout. Mais par contre, on colle en fait au nouveau besoin qui est en train de se définir, qui est en fait si les marques éthiques ont envie d'être distribuées par des distributeurs éthiques aussi, qui collent à leurs valeurs. Et du coup, prochainement, c'est des choses qui vont se développer de plus en plus parce que on a envie d'une cohérence. Toutes les marques ont envie d'une cohérence à 100% sur leur démarche. Et être vendu à côté de grands noms de la fast fashion ou même des grands noms de la mode classique qui font pas forcément attention à ce qu'ils font, ils en veulent plus. Du coup, tu vois, il y a aussi ce côté. Certes, ils ont leur distribution directe et ils le garderont toujours. Et moi, je pousse les marques. À chaque fois, je leur dis, gardez votre site. C'est votre vitrine, c'est vous, c'est vos valeurs. C'est votre image de marque. Sur WeDressFair, vous la perdez un peu plus parce que c'est un mix de plusieurs marques. Mais il y a aussi le côté, quand on génère des ventes, du coup, ils financent aussi toute la plateforme WeDressFair avec la pédagogie qu'il y a derrière, avec toute la partie informationnelle, etc.
Trop bien. Un sujet dont on devrait parler tout le temps finalement, mais qui est en ce moment vraiment d'actualité, c'est la diversité dans l'industrie de la mode. Comment est-ce que vous taclez le sujet chez WeDressFair, et est-ce que vous avez dans vos choix de marque, vous faites attention à ça, et comment vous le structurez ?
Alors ça c'est un sujet, qu'on discute beaucoup entre nous, assez régulièrement. Par contre, en fait, c'est des choses qui nous arrivent peu dans la sélection des marques, parce qu'en fait, quand elles arrivent avec les valeurs, en fait, les critères quand même de sélection de WeDressFair sont quand même assez poussés. Ce qui fait que les marques qui demandent d'entrer sur le site sont souvent des marques qui ont déjà en fait réfléchi à cette question-là aussi. Et qui du coup incluent déjà cette question-là dans leur démarche, notamment de photos, modèles, gamme de taille de, enfin, disponible, etc. Donc, il nous est très rarement arrivé de mettre un point de vigilance en disant attention, là, on n'est pas d'accord avec ça. Ça nous est arrivé qu'une fois avec une marque qui nous proposait une collection éco-responsable. Donc, nous, ça rentre pas sur nos critères parce que, du coup, nos critères de base, c'est qu'il faut que la marque elle ait plus de 70% de ses collections totales en produits éco-responsables. Donc, une collection capsule, ça rentre pas, ça représente pas 70% de la collection totale. Et du coup, qui avait des mannequins très très maigres, mais vraiment très très maigres sur les photos, et une diversité de tailles qui n'était pas forcément là. C'est les tailles, c'est encore un sujet qui est difficile, hein, mais on essaye de trouver des marques qui ont des tailles aussi qui sont un peu plus larges. Et bah, cette marque,
ce serait quoi le must-have aujourd'hui sur le range de taille, quoi, comment on dit en français, ça irait du combien au combien? Il faudrait que ça aille
au moins, je dirais au moins jusqu'au alors après c'est toujours la même chose, c'est difficile et je comprends, hein, et je comprends les enjeux des marques, hein, quand sur les tailles extrêmes. Mais au moins du XS au triple XL pour les hommes, ou au moins double XL chez les hommes. Et après, pour les femmes, j'ai plutôt tendance à donner en chiffres. Tiens, c'est bizarre. Tu vois, pourquoi je donne les chiffres chez les femmes et je donne les... Et chez les femmes, il y a plus de diversité, je dirais, au moins jusqu'au 46, tu vois.
Du 32 au 46, c'est ça?
Du 30, ouais, 32, vraiment, c'est très rare. Enfin, tu vois, après, effectivement, c'est toujours la même chose. Il faut essayer d'avoir... Je sais pas si toi, tu fais des sondages sur les tailles, trucs comme ça. Il y en a qui font, et du coup, la marque Atelier 1, ils font beaucoup les sondages auprès de leurs consommateurs, et du coup, ils arrivent après à avoir une gamme assez représentative de tailles auprès des personnes qui achètent leur marque. Et là, je trouve que c'est une bonne démarche.
Ouais, nous aussi, on le fait.
Ouais. Et du coup, c'est quoi
C'est assez intéressant.
Tes tailles, toi?
Bah, nous, on fait du 32 au 46,
ouais.
Mais après, on a la chance de faire de la préco, donc le problème, c'est toujours pareil, c'est que tu vois bien, quand on fait un 32, parce que nous, on fait toujours un petit buffer de 10-15% quand on lance une production, ce qui te reste sur les bras systématiquement, c'est les tailles extrêmes.
Bah,
et ce que tu n'arrives pas à vendre, c'est ça, c'est les 2-3 32 et les 2-3 46 que tu as sur les bras.
Ouais.
Mais en même temps, quand tu fais de la préco, ben, tu peux te permettre de faire 3 t-shirts en 32 et 3 t-shirts en 46 et quand on a vendu 2 de chaque, tu vois. Donc je trouve que voilà, quand tu es une boîte comme ça qui fait de la préco, je trouve que tu as le devoir de le faire, quoi, parce que malheureusement, c'est des tailles qui n'existent pratiquement jamais dans le commerce.
Alors après, nous, on arrive à les trouver avec les marques allemandes, parce que les Allemands sont un peu plus grands et un peu plus costauds. Du coup, on arrive quand même à les trouver, mais ça reste pour nous, c'est des marques qui sont en achat, du coup, toutes les marques qui sont qu'on achète, et du coup, bah, c'est plus compliqué aussi pour nous d'acheter ces grandes tailles. Parce que c'est des tailles qui nous restent plus sur les bras souvent.
Ouais. Trop bien. Enfin, trop bien. L'interview est trop bien. Sur le sujet, juste pour revenir sur We Dress Fair, est-ce que tu peux nous faire un petit récap des différents milestones de la marque? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui depuis que vous l'avez lancé? Vous avez combien de... Alors là, c'est maintenant ma question qui me contredit. Hein. Si vous faites combien de chiffres d'affaires, combien de salariés, combien de croissance? Vous en êtes où là? Ça c'est ma... Non mais la question c'est ça, c'est où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez l'emmener? Alors la mission c'est de rendre disponible l'offre sustainable au plus grand nombre, en tout cas que les gens qui se posent la question sachent vous trouver. Mais grosso modo aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, quoi?
Alors j'aime pas trop. Enfin, ça veut rien dire les chiffres d'affaires et tout. Vraiment, vraiment, ça veut rien dire.
Ouais, on s'en fout.
Enfin, honnêtement, du coup, je donnerai pas, mais pas parce que je veux pas le donner, c'est juste que ça n'a aucun intérêt. En tout cas, ce qu'on voit énormément, c'est que le confinement a permis à beaucoup de gens, en fait, de passer à l'action aussi et de s'informer. Nous, c'est on voit de plus en plus de personnes qui passent sur les pages information, matière, label, etc. Donc, ça nous met en joie. Et en fait, ouais, la mission de We Dress Fair, tu disais, c'est de permettre une offre, du coup, enfin, de donner l'offre disponible en mode éthique pour toutes les personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Et je rajouterais vraiment, c'est l'offre et l'information. Vraiment, nous, on pousse énormément ce côté information à l'intérieur, en fait, du site. Donc on trace tous nos produits jusqu'aux usines de confection, donc on rend disponible les usines de confection par produit, donc ça, déjà tu vois, on essaye de pousser encore un peu plus loin l'information. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ben, on est là, on déménage, tu vois, donc on a notre boutique qui est aux 4 rue des Capucins et on déménage nos bureaux aux 6 rue des Capucins parce qu'on commence à pousser un peu les murs. On a un truc chez We Dress Fair, on dit toujours tous les 6 mois on déménage, et depuis le début du projet, tous les 6 mois on a déménagé. Et du coup, bah là, ça fait 10 mois, du coup on a dit hop, allez, vas-y, on déménage. On travaillait dans un grenier, bref, ça commence vraiment à être trop petit. Et du coup, aujourd'hui on est une dizaine chez We Dress Fair. Donc tout le monde n'est pas salarié, et le but, c'est de salarier tout le monde justement dans l'année à venir. Donc on est les 3 associés. Aujourd'hui, on n'est pas ou peu rémunéré. Du coup, on rémunère les autres, mais pas nous. Donc l'année à venir, c'est vraiment ça aussi, c'est permettre aux associés de pouvoir se rémunérer aussi sur le projet. Et où est-ce qu'on va? Ben, on continue notre petit bonhomme de chemin. On espère pouvoir répondre au maximum de marques qui demandent de rentrer sur We Dress Fair, puisque depuis novembre 2019, on a eu plus d'une centaine de demandes d'intégration sur le site. On peut pas répondre à tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire on répond par mail à tout le monde, évidemment, mais on peut pas répondre à l'intégration de tout le monde parce que il y a encore une question de taille d'entreprise, de stock, etc. Donc on espère pouvoir répondre à cette demande autrement dans l'année à venir. Donc ça, c'est, tu vois, un petit genre suspense, attention. On sait pas encore comment ça va se faire, mais voilà, on espère que ça sera possible. Et on espère pouvoir aussi permettre d'être un tremplin physique aux marques. Donc aujourd'hui, on a une boutique physique à Lyon, donc aux 4 rue des Capucins, dans le premier. Et assez régulièrement, on permet à certaines marques de faire des pop-up stores ou des soirées de lancement à la boutique. Et du coup, c'est quelque chose qu'on aimerait pérenniser et faire plus souvent. La crise sanitaire est un peu passée par là, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de pérenniser et développer encore plus. Tout en reprenant les événements qu'on faisait sur des conférences de sensibilisation sur des sujets assez divers. L'année dernière, on en a fait 4 et on espère que je pense que cette année, ça va être un peu, peut-être septembre, on ne sait pas trop, avec les restrictions sanitaires, mais voilà, on espère pouvoir reprendre aussi la partie pédagogie, sensibilisation. Voilà tous les petits projets en cours.
Trop bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps et d'avoir partagé tout ça avec nous. J'ai 2 dernières questions. Oui. Une nouvelle question bonus que j'ai décidé de lancer avec toi. J'aurais eu du temps à parler avant. Si tu réponds pas, c'est pas un drame. C'est une question que je vais poser systématiquement maintenant à tous les interviewés. C'est attention, accroche-toi. Si tu avais 3 choses à améliorer, 3 choses à améliorer chez Réuni, qu'est-ce que ça serait? Je sais pas si tu connais bien le sujet Réuni, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu vois qui serait améliorable et qu'est-ce qu'on a intérêt à améliorer? Et la dernière question, celle-ci, elle change pas, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Alors, 3 choses à changer, 3 choses à changer chez Réuni. Je pense que je connais pas assez bien, tu vois. J'aurais dû t'interviewer avant, moi, pour savoir. Je ne sais pas assez bien, mais nous, en tout cas, ce qu'on fait, ce qu'on pousse énormément, c'est la traçabilité et la transparence. Donc, moi, je te dirais ça. Et la transparence, ça va au-delà de la transparence sur uniquement le vêtement, le produit, etc. Mais ça va au-delà de cet aspect de production. C'est plutôt au niveau de l'entreprise, la gouvernance, les moyens de financement que tu as trouvés. Enfin, je pense que c'est des informations que de plus en plus de personnes vont chercher et qui sont assez importantes pour moi.
Et ça, tu le mettrais sur le genre à propos de ton site. Voilà comment on est financé. Voilà comment la boîte est organisée. Combien on se paye. Est-ce que tu irais jusque là sur la transparence des salaires, etc. Ouais. Vous en parlez-vous de ça?
Ben aujourd'hui, c'est pas disponible sur le site encore parce qu'on n'avait pas clôturé nos comptes. Enfin, on a clôturé nos comptes, mais du coup, ça n'a pas été rédigé. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va faire, tu vois. On va publier nos comptes, en fait. Nous, on va carrément mettre, combien on gagne. Donc, le chiffre d'affaires que je ne voulais pas donner là, en fait, vous l'aurez sur les comptes si vous voulez. Mais on va expliquer tout. Okay. Parce qu'en fait, c'est hyper important de savoir comment marche une entreprise aussi aujourd'hui. C'est pas... tu vois, en fait, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est facile à comprendre et je pense qu'on a tout intérêt à avoir ces informations-là pour savoir comment fonctionne l'entreprise, tu vois. Donc, nous, on va pousser ça plus loin, ouais. Et puis, on verra. Je donnerai un retour d'expérience.
Carrément. Trop bien. Et les autres choses à améliorer, ou en tout cas à bien prendre en compte, d'après toi, pour progresser?
Alors, il y a la traçabilité, moi, j'ai dit. Donc, ça, c'est quand même très dépendant au produit, mais c'est hyper important. Et la troisième chose que je dirais, je ne sais pas où tu produis, toi. Tu produis en
Europe.
En Europe. C'est d'essayer d'inclure peut-être la production française. Alors là, je sais que c'est compliqué et que ce n'est pas possible pour tout. Mais au moins, se poser la question à chaque fois. Parce qu'il y a une question de récurrence. On travaille avec les mêmes ateliers, etc. Et je sais et je comprends que... il y a un lien qui se crée après d'année en année. Mais je pense qu'il y a aussi... C'est important pour moi, en tout cas, de savoir qu'il y a des entreprises qui poussent aussi et qui financent les projets de relocalisation de la filière textile en France. Du coup, tu vois, je ne sais pas comment ça se matérialiserait, mais tu vois, peut-être chaque année se dire... qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans la filière française ou qu'est-ce qu'on peut faire pour la filière française aujourd'hui.
Ouais, ouais. Trop bien. Ok, parfait. Et la dernière question, c'était qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Alors, je ne sais pas si ça compte parce que c'est pas une entrepreneuse. Enfin, elle n'a pas monté de projet où elle produit des vêtements. Mais c'est Naïla Adjaltouni. Du collectif éthique sur l'étiquette. Je trouve qu'elle est très, très, très inspirante. Et je ne sais pas si tu l'as déjà interviewée.
Non. Ok. Non, pas du tout. Je ne la connais pas. Et si tu pouvais me faire une intro, je serais ravie de l'interviewer.
Avec plaisir. Et elle est vraiment inspirante. Et elle a vraiment ce côté aussi plus poussé sur le social, sur la condition des travailleurs en France et à l'autre bout du monde, dans le textile. Et c'est un côté qu'on essaye vraiment d'être super vigilant avec We Dress Fair parce que beaucoup de marques de mode aujourd'hui se disent éco-responsables parce qu'elles ont, elles incluent des matières éco-responsables dans leur production, mais le côté social est peut-être moins présent, tu vois. Et du coup, nous, on essaye vraiment de toujours ramener ce sujet sur la table en disant attention, qu'est-ce que vous faites pour améliorer les conditions de travail si c'est à l'autre bout du monde, tu vois.
Très bien. Eh ben, écoute, je compte sur toi pour me faire l'intro et je l'interviewerai avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup, Marie. Je suis ravi d'avoir fait cette interview avec toi. C'était hyper intéressant. Tu nous as éclairé sur pas mal de choses et tu nous as permis de mieux connaître We Dress Fair. Et si on peut, si je peux, avec Entreprendre dans la mode, contribuer à vous faire connaître un petit peu plus, eh ben, j'en suis ravi.
Avec grand plaisir.
Je te dis à très bientôt et puis, au plaisir de te rencontrer en chair et en os.
Avec grand plaisir.
Salut Marie.
Salut.
À bientôt.
À bientôt.
Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.